au chapitre 9 où nous poursuivons notre série. Donc 1 Corinthiens au chapitre 9. Si je me réfère au salaire moyen en Belgique pour un travail équivalent, donc pour la prédication que je vais donner, en termes de compétences, en termes de concentration, en termes de temps investi, cette prédication vous sera facturée au minimum 293 euros, 60. Et encore, je suis très généreux dans mon calcul, car je me réfère au salaire moyen national. Si je devais prendre les standards de Bruxelles-Centre, la facture serait de 403 euros minimum pour cette seule prédication. Et en tant que chrétien, aimant le Seigneur, obéissant au Seigneur, vous allez bien sûr me régler cette somme, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je plaisante et je ne vais rien vous facturer. Mais cette introduction a pour but de poser une question essentielle. Que fait-on de notre liberté chrétienne? Nous avons tous des droits, nous avons tous une liberté à exercer en Christ, de donner ou non, de recevoir ou de renoncer. Et ce choix, cette liberté qui est la nôtre, ne devrait jamais être une contrainte imposée. Elle devrait toujours être le fruit d'un choix volontaire qui a pour but de bénir ceux et celles qui nous entourent. Et c'est ce principe de liberté chrétienne que nous avons commencé à explorer il y a 2 semaines avec Eric et que nous allons continuer à explorer ce matin dans les versets 1 à 18 du chapitre 9 de cette première épître aux Corinthiens. Et j'espère que nous pourrons ainsi voir si nous exerçons notre liberté comme le Seigneur l'exige et le demande. Et donc le titre de la prédication ce matin est « Libre pour bénir, droit, devoir et renoncement ». Et je vous invite à lire avec moi les 18 premiers versets de ce chapitre 9. Lisons. « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres ? Les frères du Seigneur et Céphas ? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler ? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais ? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela ? La loi ne le dit-elle pas aussi ? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop peu si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'Évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Le premier point de la prédication, il y a des serviteurs et ils ont des droits. Cela fait plusieurs semaines que nous parcourons cette première épître aux Corinthiens et ce que nous avons constaté, c'est que dans cette église à Corinthe, eh bien, il y avait de nombreux problèmes et notamment des problèmes de division. Des camps s'étaient formés autour de leaders spirituels. Certains se réclamaient d'Apollos, d'autres de Céphas, et ainsi de suite. Et ces choix se basaient sur des critères comme le charisme, la sagesse, l'éloquence, la puissance ou la popularité. Et ces leaders charismatiques recevaient à juste titre un salaire, un logement, ou peut-être des dons, le remboursement de leurs frais. Bref, tout ce dont ils avaient besoin pour accomplir leur tâche, pour accomplir leur travail. Rien d'extravagant à cela. C'est même très normal. En effet, un ouvrier, un travailleur, quel qu'il soit, maçon, mécanicien, cuisinier, facteur, médecin ou prédicateur de l'Évangile, mérite un salaire pour bien accomplir sa tâche. Et donc, pas de problème jusqu'ici chez les Corinthiens. Mais il y avait tout de même un problème. Car celui qui aurait dû bénéficier le plus de ses droits, c'est-à-dire l'apôtre Paul, en était privé. Contrairement aux autres leaders à Corinthe, Paul ne répondait pas aux critères de grandeur des Corinthiens. Il n'était pas très impressionnant. Et certains commentateurs pensent qu'il était même bègue, il avait des problèmes d'élocution. Et donc, à leurs yeux, l'apôtre Paul était insignifiant. Et donc, il ne lui accordait pas ce qui lui revenait de droit. Et Paul va rappeler aux Corinthiens les faits. Il va leur rappeler ce qu'il est. Il est un serviteur de Christ. Il est un ouvrier de l'Évangile. Il est un prédicateur de l'Évangile avec des droits qu'on ne peut pas lui retirer ni lui voler. Et donc, qui est serviteur ? Eh bien, au verset 1, Paul pose quatre questions rhétoriques pour montrer qu'il est un serviteur de l'Évangile de Christ. Où il va dire « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Et ces questions sont autant d'affirmations. Oui, je suis libre. Oui, je suis apôtre. Oui, je suis un témoin de Christ. Et oui, vous, Corinthiens, vous êtes la preuve vivante de mon ministère. Et au verset 2, il continue et insiste pour montrer qu'il est véritablement un serviteur de l'Évangile. Où il va dire, même si d'autres contestent mon apostolat, ma charge, ma fonction, vous, Corinthiens, vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi ? Parce que vous êtes mes enfants spirituels. Vous êtes le fruit de mon travail. C'est moi, Paul, qui vous ai annoncé l'Évangile de Christ. Et il faut bien comprendre la logique et la démarche de Paul ici. Paul ne cherche ni à se glorifier, ni à manipuler pour obtenir des privilèges illégitimes. Il rappelle simplement qu'il est un serviteur de l'Évangile, choisi et envoyé par Dieu. Et en raison de cette charge, il a des droits. Des droits qu'on ne peut pas lui retirer, qu'on ne peut pas lui voler. Et Paul va rappeler aux Corinthiens, des versets 4 à 7, quels sont ses droits. Mais avant de découvrir quels sont ses droits, j'aimerais que nous prenions conscience qu'en notre sein, dans notre Église, nous avons des serviteurs, des ouvriers de l'Évangile. c'est-à-dire des personnes qui enseignent, qui prêchent, qui proclament l'Évangile pour édifier, pour faire grandir le peuple de Dieu dans la foi et dans l'obéissance. Qui sont-ils, ces serviteurs? Eh bien, ils sont les moniteurs de l'école du dimanche. Ils sont les responsables du groupe d'ados. Ils sont les responsables du groupe des femmes qui enseignent les femmes. Ils sont les responsables du groupe de jeunes. Ils sont nos anciens, nos pasteurs. Toutes ces personnes sont des ouvriers de l'Évangile. Ce qui veut dire, comme l'a démontré Paul, qu'elles ont des droits qu'on ne peut pas leur retirer. Et nous allons voir maintenant quels sont ces droits. Paul en parle du verset 4 au verset 7. Et il dit qu'en tant que couvrier de l'Évangile, il a le droit, au verset 4, de subvenir à ses besoins élémentaires, c'est-à-dire manger et boire. Ces denrées qui s'achètent avec de l'argent, avec un revenu, avec un salaire, et qui ne sont pas des besoins superflus, qui sont nécessaires pour avoir de l'énergie afin d'accomplir sa mission, qui est de proclamer l'Évangile, qui est d'enseigner l'Évangile. Au verset 5, l'ouvrier de l'Évangile a le droit d'avoir, et dans le cas de Paul, c'est une épouse et une famille pour le soutenir. En effet, à Corinthe, certains pensaient que les leaders spirituels devaient s'abstenir de toute vie familiale ou de plaisir matériel, parce qu'ils pensaient que c'était des personnes très spirituelles et donc qu'ils n'avaient pas besoin de toutes ces choses. Mais Paul montre qu'une famille, des vacances, du divertissement, peut être un soutien important dans le ministère. Au verset 6, Paul montre que l'ouvrier de l'Évangile a le droit de travailler. Dans la même logique qu'au verset 5, les Corinthiens pensaient qu'un leader spirituel ne devait pas exercer de métier pour rester pleinement consacré à la spiritualité. Mais Paul répond que parfois, travailler peut être une nécessité, pas une obligation, ça peut être parfois une nécessité pour bien servir, car faute de soutien. Et enfin, au verset 7, l'ouvrier de l'Évangile a le droit à une juste rétribution. Comme un soldat qui ne sert pas à ses propres frais, comme un vigneron qui profite de ses vignes ou un berger du lait de son troupeau, un serviteur de l'Évangile a le droit à un soutien venant de ceux qu'il sert. En résumé, Paul ne revendique rien d'extravagant, mais des droits fondamentaux pour accomplir sa tâche d'ouvrier de l'Évangile. Et de même, parmi nous, il y a des ouvriers de l'Évangile qui proclament, enseignent la parole de Dieu pour transformer et changer des vies. Et ils ont des droits légitimes pour leur permettre d'accomplir convenablement et sereinement leur travail. Et on n'est pas en train de parler là de l'évangile de prospérité, de leaders abusifs, de moniteurs ou de responsables qui dépouillent les enfants ou leurs membres, qui exigent des SUV, des montres de luxe, des vacances aux Maldives ou un salaire à 6 chiffres. Non, on n'est pas en train de parler de ça. On est juste en train de parler de droits légitimes pour bien accomplir la mission que Dieu confie à certains. Pourtant, comme Paul l'a vécu chez les Corinthiens, certains de ces droits sont souvent retirés aux serviteurs. Parfois, l'Église et ses membres retirent ces droits, leur volent ces droits. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de la prédication, où l'Église a des responsabilités et des devoirs, les versets 8 à 14. Au sein de l'Église, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, au sein des Églises, il n'est pas rare d'entendre « pratiquons le don de soi, le sacrifice, renonçons à nos droits pour servir et bénir les autres. » Et appliquons cela dans notre engagement aux activités de l'Église, au soutien financier, à l'encouragement mutuel et fraternel. Sacrifions-nous, donnons-nous Et ces rappels sont essentiels, car ils résument l'essence de la foi chrétienne. En effet, Dieu en Christ a renoncé à sa gloire pour devenir un homme, mourir et offrir sa vie pour des pécheurs. Jésus était riche, infiniment riche, glorieux, et il s'est fait pauvre pour nous. Et en effet, en tant que chrétiens, nous voulons nous rappeler que nous voulons suivre son exemple, comme Paul l'a suivi, lui, en se faisant balayure du monde pour le bien des Corinthiens. Oui, nous entendons souvent « renonçons à nos droits, sacrifions-nous ». Mais ce principe, cette vérité fondamentale, mal comprise et mal appliquée, posait problème à Corinthe. Il reste un défi dans bien des églises aujourd'hui. Ce qui arrive parfois est que les églises prennent cette vérité essentielle et en abusent pour fuir leurs responsabilités. Car, voyez-vous, ce qui caractérise le sacrifice, le don de soi, dans tous ces exemples que je viens de citer, celui de Christ, celui des apôtres, de Paul, des serviteurs, c'est que le renoncement est toujours le fruit d'un choix libre, d'une décision volontaire pleinement assumée. On ne peut pas imposer à qui que ce soit de renoncer à ses droits. On ne peut pas retirer la liberté aux gens. Ce n'est pas possible. Cependant, aujourd'hui, dans certaines églises, ce qui devrait être un sacrifice libre devient une contrainte imposée. Ce n'est plus un choix des serviteurs de renoncer à leurs droits et à leurs ressources qui sont légitimes, comme la nourriture, la boisson, mais une nécessité face au manque de soutien. Certaines églises, disons-le, refusent de remplir leurs responsabilités. Et Paul a vécu cette même situation au 1er siècle, qu'il dénonce des versets 8 à 14. Bien qu'il valorise et encourage le renoncement, ce que nous verrons dans la dernière partie de la prédication, il insiste sur le fait que ce renoncement de la part des serviteurs doit être libre et non imposé. Or, l'Église de Corinthe, en refusant de remplir ses devoirs, tout en profitant du travail de Paul, lui retire ses droits légitimes. L'Église de Corinthe a agi injustement envers l'apôtre, en le privant de ce qui lui revenait de droit. Et Paul va démontrer que soutenir matériellement les serviteurs de l'Évangile n'est ni une faveur optionnelle, ni une opinion personnelle, mais bien un principe établi par Dieu. Ce n'est pas une simple suggestion, mais c'est un commandement divin, enraciné dans l'autorité de la parole. Et voici ce que dit Paul au verset 9. Il dit, il est écrit dans la loi de Moïse, et donc commandement de Dieu, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Et Paul précise tout de suite que cette loi ne se limite pas aux animaux. Elle préfigurait le principe selon lequel ceux qui consacrent leur vie à l'œuvre de Dieu, à la proclamation de l'Évangile, ont le droit légitime à être soutenus dans leur ministère. Car il poursuit, suite du verset 9 et verset 10, il dit « Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle ?» Oui, c'est à cause de nous que cela est écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Et Paul insiste au verset 11, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop peu si nous récoltons une part de vos biens matériels ? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ?» Autrement dit, ceux qui consacrent leur vie ou une partie de leur vie, une partie de leur temps à enseigner l'Évangile, à proclamer l'Évangile, ont un droit légitime à être soutenus par la communauté qui bénéficie de ce travail et de ce service. Refuser de les soutenir n'est pas seulement une injustice, mais aussi une désobéissance à la volonté de Dieu. Et Paul va continuer sa démonstration en citant un autre exemple tiré de l'Ancien Testament, au verset 13, où il dit « Ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple. Ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert. » Et il parle là donc des prêtres qui officiaient dans l'Ancien Testament au temple, la tribu de Lévi, qui était consacrée au service du temple, qui n'avait ni territoire ni ressources propres et dépendait des dîmes et des offrandes du peuple pour ses besoins. Et c'est un système qui a été instauré par Dieu, un système qui n'est ni abusif ni excessif. Il garantissait que ceux qui servaient à plein temps ne soient pas accablés par des soucis matériels. Et Paul applique ce principe aux ouvriers de l'Évangile. Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Cependant, ce n'était pas le cas pour Paul à Corinthe, et ce n'est pas le cas pour de nombreux serviteurs de l'Évangile aujourd'hui en Belgique. Pourquoi ce principe essentiel, établi par Dieu lui-même, est-il si souvent ignoré? Pourquoi les frais liés au ministère, les déplacements, des livres pour se former, des photocopies pour l'école du dimanche, des heures de travail pour l'église et plein d'autres choses restent-ils si souvent à la charge des serviteurs eux-mêmes? Dans une église où j'ai servi il y a quelques années, peut-être 4, 5 ans, je ne sais plus, les frais des prédicateurs invités étaient toujours couverts, toujours. Donc on invitait des prédicateurs en visite et on couvrait leurs frais. Tandis que les anciens de l'église locale, lorsqu'ils prêchaient, eh bien, recevaient du café soluble et des biscuits marque blanche lorsqu'ils prêchaient à la fin du culte. Qu'est-ce qui justifie cette différence? Certains justifient cela en disant que bien, l'Évangile l'exige. C'est une vie de renoncement et de sacrifice. Amen. Absolument. Et c'est ce que Paul va enseigner et encourager plus loin dans le passage. Mais Paul dit aussi ici que le renoncement doit être un choix personnel, une décision libre et non une contrainte imposée par d'autres. Malheureusement, trop souvent, dans nos églises, en Belgique, même en France, dans le milieu francophone, on impose ce sacrifice comme une obligation pour les serviteurs. Est-ce pour conserver son propre confort, son salaire, sa nourriture, son train de vie? Eh bien, oui, il y a de la liberté à donner ou non. On a le droit, mais pas lorsque le serviteur manque de tout pour son service. Et cette manière de faire repose davantage sur une culture dominante, sur peut-être des opinions personnelles, que sur une véritable pensée biblique. Et malheureusement, elle a des conséquences extrêmement graves pour les églises. Des serviteurs épuisés, jonglant entre ministère et travail. Un manque de relève, car peu acceptent ces conditions de travail. Des fidèles épuisés et perdus faute d'accompagnement et d'enseignement de qualité suffisant. Mais certains pourraient dire et répondre à cela. Mais s'ils avaient vraiment besoin, ils viendraient demander. Mais c'est réfléchir à l'envers. Aucune église ne devrait laisser ses serviteurs quémander leurs droits. Car c'est un commandement, c'est une responsabilité qui incombe à l'église, à la communauté qui bénéficie de ce service des ouvriers de l'Évangile. Paul nous enseigne que l'Église doit honorer ses serviteurs et leur permettre de choisir librement s'ils exercent leurs droits ou y renoncent. Et ce n'est pas simplement une question financière, c'est aussi une question de reconnaissance, de respect, d'encouragement, d'amour. Cela traduit quelque chose de notre respect, de notre amour pour nos moniteurs de l'école du dimanche. Cela traduit quelque chose de notre considération, de notre amour pour nos prédicateurs, pour nos responsables du groupe d'ados, pour nos responsables du groupe de jeunes. Si nous ne prenons pas soin de ceux que Dieu envoie pour nous servir, pour nous enseigner, comment pourront-ils accomplir pleinement et sereinement leur mission? Comment pourrions-nous avoir une Église qui grandit dans la foi, dans l'obéissance et dans la sainteté? Imaginez-vous que tous les Belges cessent de payer leurs impôts demain. Qui en souffrirait les premiers? Les Belges, nous-mêmes. Qui éduquerait nos enfants? Qui nous soignerait? Qui nettoierait nos rues? Qui assurerait notre sécurité? Eh bien, ce sont ceux que nous finançons et soutenons qui remplissent ces rôles essentiels. De la même manière, le travail de nos moniteurs de l'école du dimanche, de nos responsables, de nos enseignants, est encore plus crucial, car il touche à l'éternité. Et donc, si nous en sommes convaincus, ne devrions-nous pas être d'autant plus généreux, enclins à donner, à soutenir, à encourager? Et pourtant, un paradoxe demeure au sein des Églises. Nous sommes réticents à donner, à soutenir, à renoncer parfois à nos droits, mais nous sommes les premiers à nous plaindre que l'Église ne fonctionne pas comme elle le devrait. La parole de Dieu nous exhorte ce matin à prendre soin de nos serviteurs, à prendre soin de nos moniteurs de l'école du dimanche qui s'occupent de nos enfants, à prendre soin des responsables du groupe de jeunes, du groupe d'ados, à prendre soin de nos anciens et de nos pasteurs. Assurons-nous qu'ils disposent de tout ce qu'il leur faut pour accomplir leur tâche, leur mission, qui est de proclamer et d'enseigner l'Évangile. Honorons-les, prenons soin d'eux, allons à leur rencontre, intéressons-nous à ce qu'ils font, posons-leur des questions, comment ça se passe, de quoi aurais-tu besoin, est-ce que tout va bien? Faisons cela. Faisons les efforts nécessaires en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, pour pourvoir et répondre à leurs besoins. Renonçons à certains de nos droits pour être généreux dans nos dons, non seulement financiers, mais aussi de temps, d'engagement, car c'est notre devoir et responsabilité en tant qu'Église. Faisons usage de notre liberté, non pour priver nos serviteurs de leurs droits, mais pour les bénir, afin que eux, en retour, puissent nous bénir, nous et nos enfants. Et je vais vous dire quel est le meilleur moyen d'être généreux. Ce n'est pas en fixant un pourcentage arbitraire de son revenu, 2%, 5%, 10%, mais en se rappelant que Christ s'est fait pauvre pour nous alors qu'il était riche, en se rappelant comment Christ a exercé sa liberté envers nous. Il a tout quitté, tout laissé pour venir à notre rencontre, pour mourir à la croix, nous racheter et pour nous bénir infiniment. Et si on est habité par cette vérité, eh bien oui, on sera généreux. Je connais un couple de retraités chrétiens, donc pensionnés, qui ne travaillent plus et qui avait un travail peu qualifié. Donc ce couple chrétien que je connais personnellement, depuis près de 10 ans, soutient des missionnaires qui sont à l'étranger à hauteur de 1 000 euros par mois. Et ils sont pensionnés. Dans notre communauté, je connais des membres qui, bien qu'ayant peu, donnent avec abondance pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et vous savez quel est le point commun entre toutes ces personnes? Eh bien, ce n'est pas qu'ils sont fortunés, parce qu'ils ne sont pas fortunés. Mais ils ont compris, ils ont réalisé que Christ s'est fait pauvre, a renoncé à ses droits pour que eux soient infiniment riches et bénis, pardonnés, réconciliés, justifiés devant Dieu pour avoir la vie éternelle. Et donc, si nous réalisons à quel point Christ a renoncé, si nous en sommes convaincus, nous aussi, nous pourrons renoncer pour bénir les autres. Et ce n'est pas une question de moyens, c'est plus une question de compréhension de l'Évangile et de notre responsabilité face à cette vérité. Renoncer à ses droits par amour pour les autres, eh bien, c'est précisément ce à quoi Paul encourage les Corinthiens. Et pour les encourager à renoncer à leurs droits afin de bénir les autres, en fait, il va citer son propre exemple de renoncement, qui n'est qu'un pâle reflet de l'exemple de Christ. Et c'est la troisième et la dernière partie de la prédication. Donc, la liberté excellente, c'est de renoncer à ses droits pour bénir les autres. Les versets 11, 15 à 18. Mais je vais juste lire alors les versets 11 et 18. Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Et il dit au verset 18, « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Si les Corinthiens avaient voulu octroyer à Paul ses droits et non lui retirer, eh bien, Paul aurait tout de même refusé. Et on pourrait se dire, mais Paul ne sait pas ce qu'il veut, il est contradictoire. D'un côté, il reproche aux Corinthiens de lui avoir volé ses droits pour au final leur dire qu'il y renonce. Comme nous l'avons vu, la liberté de Paul de prendre ou de renoncer à ses droits ne doit pas déresponsabiliser l'Église de ses devoirs. C'est le choix de Paul. Il a des droits, renoncer ou non, mais l'Église a des devoirs. Et même dans ses devoirs, bien, l'Église, les membres, ont aussi une liberté d'accorder ou non. Toujours, mais toujours en s'assurant que l'ouvrier de l'Évangile a tout le nécessaire pour bien faire son travail. Il y a de la liberté. Mais en fait, dans tout cela, dans tout ce que Paul a dit, ce qu'il veut nous enseigner, et c'est le principe à retenir, ce qui doit nous guider dans l'exercice de nos droits, ce qui doit nous guider dans notre liberté, c'est l'amour. C'est l'évangile. C'est le désir de bénir les autres. C'est Christ lui-même qui s'est donné pour nous donner la vie. L'acte d'amour ultime. Si Paul renonce à ses droits, c'est par amour pour les Corinthiens, pour qu'ils puissent profiter pleinement de l'Évangile, pour les bénir, pour leur faire du bien, pour leur partager la vie éternelle et les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus. Si les Corinthiens sont appelés à renoncer à leurs droits, renoncer à un peu de leur temps, à un peu de leurs ressources, c'est aussi par amour, pour bénir, pour faire du bien à l'apôtre Paul, pour l'encourager à poursuivre, à partager l'Évangile, à partager la vie éternelle et les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus. Chers frères et sœurs, si c'est l'Évangile et l'amour qui nous motivent dans l'exercice de notre liberté, alors nous ne donnerons pas seulement 1, 2, 3, 10% de notre temps, de notre argent, de nos forces et de nos ressources, mais peut-être, et il y a de la liberté, 20, 30, 40, 100% parfois, à des moments ponctuels, si le besoin se fait ressentir. En Christ, nous avons une grande liberté. Liberté de donner ou non. Liberté de renoncer ou non. Mais la vraie question est la suivante. Choisissons-nous cette liberté pour aimer et bénir? Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés? Non pas dans le but de nous faire du bien à nous-mêmes, mais pour le bien du plus grand nombre. Et je vous invite à ne pas laisser cette question en suspens. Que faire de ma liberté? Comment l'exercer? Je vous invite à poursuivre justement ces réflexions après notre rencontre, à en discuter ensemble pour voir comment on peut tous progresser, comment on peut prendre soin de ceux qui sont en notre sein et qui nous servent. Et allons voir justement ces personnes qui sont des ouvriers de l'Évangile, bien juste pour savoir comment ça va. Est-ce que leur travail se passe dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ils ont besoin de quoi que ce soit? Intéressons-nous à eux. Honorons-les. Prenons soin d'eux. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous as pleinement béni en Jésus. Merci pour ce merveilleux sauveur que nous avons, qui était infiniment riche et qui s'est fait pauvre pour nous qui étions de pauvres pécheurs misérables. Et merci parce que dans son renoncement, dans sa mort à la croix pour nous, eh bien, il nous rend infiniment riches, il nous réconcilie avec toi, il nous donne la paix éternelle, la joie et la vie éternelle. Et merci parce que tu nous bénis aussi richement au sein de cette Église. Merci de nous avoir donné autant d'ouvriers de l'Évangile. Merci pour tous ces moniteurs et monitrices qui œuvrent dimanche après dimanche, qui prennent soin de nos enfants. Merci pour les responsables du groupe d'ados, du groupe de jeunes. Merci pour nos anciens et nos pasteurs. Merci pour le bien qu'ils nous font. Et Seigneur, que nous voyons cela, que nous ayons conscience de cela, et donne-nous aussi un cœur à vouloir prendre soin d'eux, à nous soucier d'eux et à leur demander quels sont leurs besoins pour bien accomplir leurs tâches. Et Seigneur, donne-nous de réfléchir ensemble à toutes ces questions. Fais-nous grandir dans l'amour pour les autres et surtout pour l'amour de Christ. Et nous te prions cela en son nom. Amen.